Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de venir assister à cette table ronde sur les récits dystopiques. Quel est le titre déjà? Les récits dystopiques, se faire peur ou anticiper notre futur. Nous avons sur cette table ronde quatre auteurs. Tout à droite, Samantha Bailly, qui n'est pas seulement auteur, mais aussi blogueuse, youtubeuse, scénariste de cinéma et de jeux vidéo, auteur à plein temps quand même, et qui était notamment le coup de cœur des Imaginales en 2013. À côté de moi, il y a Agnès Marot, qui écrit plutôt pour la jeunesse, c'est bien ça, et que dont je suis content de faire la connaissance. Nous nous étions jamais vus. Un peu plus loin, nous avons un auteur islandais, Andri Snær Magnason, c'est juste, merci, qui a une particularité, à part d'être auteur, il a été candidat lors de l'élection présidentielle islandaise de 2016. Donc j'imagine que c'est un personnage important qui est avec nous aujourd'hui. Et il est auteur de livres aussi pour la jeunesse, et il a publié plusieurs livres. C'est un auteur réputé en Islande, qui a été traduit une seule fois en français. Trois fois en français. Très bien. Merci. Et pour terminer, à ma droite se trouve Johan Elliott, que vous connaissez bien, qui a écrit plus de 50 livres et autant de nouvelles, et dont le domaine qui nous occupe aujourd'hui, la question qui se pose à nous aujourd'hui, il l'a souvent abondamment traité. Alors, pour commencer, j'aimerais peut-être juste situer un petit peu le problème. Gérard Klein, dans sa préface à Limbo, qui a été réédité l'année passée, s'est fendu d'une nouvelle préface en essayant de distinguer l'utopie, l'anti-utopie et la dystopie, qui sont des termes que l'on confond souvent, que l'on mélange souvent. Et il nous dit ceci, Gérard Klein, il nous dit « L'utopie, c'est la description d'une société idéale qui raconte le merveilleux qui serait si on l'applique. Hein, ce serait vraiment la meilleure des sociétés. » Il dit ensuite que la dystopie décrirait l'effroyable si on fait rien. Voilà ce qui va se passer si on fait rien. Ça va empirer, les centrales nucléaires vont exploser, enfin, vous voyez un peu de gens. Et puis, il termine en disant, l'anti-utopie, c'est l'abomination à laquelle conduirait la réalisation d'une utopie. Et, alors, on peut être d'accord ou pas avec cette distinction. C'est vrai qu'anti-utopie, contre-utopie, dystopie, souvent, on les utilise l'un pour l'autre. Mais voilà, j'aimerais commencer par poser une question à nos auteurs. C'est à quoi servent les dystopies? Qui voudrait répondre? Samantha?
C'est intéressant d'avoir cette frontière assez floue, en effet, entre l'utopie et la dystopie. L'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas, comme on le dit? Et en effet, en science-fiction en particulier, on constate que les visions du futur sont plus dystopiques, on va dire, que utopiques. Je pense, à mon sens, que la dystopie joue un rôle d'avertissement. Quand on pense, bien sûr, au roman de toutes les personnes présentes, mais aussi à des séries comme Black Mirror, etc., qui, je trouve, est une belle démonstration d'une déclinaison de dystopies diverses et variées. On est dans l'avertissement, en fait. On est dans... On fait un pas en avant pour essayer d'imaginer ce que pourrait être le futur dans parfois ce qu'il a, hélas, de plus dangereux, dans ce qu'il a de plus déviant aussi. Et voilà, une sorte de mise en garde sur souvent nos libertés et sur cette toute petite extrapolation qui fait qu'à partir de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si on poursuit un petit peu le cheminement, et ben voilà où ça peut nous conduire. Donc, en tout cas, moi, je vois ça comme ça.
Tout à fait, je rebondis. Et en ajoutant peut-être ceci, ça parle, enfin, toutes les dystopies ou contre-utopies, alors là, je vais peut-être pas entrer dans, effectivement, les différences de définition entre l'une et l'autre, parce que bout du compte, enfin, je trouve que tout ça se ressemble, mais elles ne font toutes finalement que de nous parler de notre présent, comme toujours la science-fiction, effectivement, en poussant à son paroxysme, en exagérant, voire en caricaturant les tendances les plus négatives, les plus perverses de nos sociétés telles qu'elles existent déjà, telles qu'elles sont déjà en germe aujourd'hui. Et au final, c'est ce qu'a toujours fait la science-fiction depuis ses débuts. Alors, pour citer un exemple de grand classique, alors bien sûr, 1984, Le meilleur des mondes, et on peut même remonter, à mon avis, jusqu'à, je pense, à la machine explorer le temps d'Herbert George Wells, parce que quand il transporte son héros principal dans un futur très 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 lointain, il commence par nous montrer un futur qui serait magnifiquement utopique, avec cette société où les gens ne travaillent plus, sont nourris, enfin un véritable jardin d'Éden, et puis très vite on s'aperçoit qu'en réalité cette utopie cache une terrifiante dystopie avec les Morlocks qui vivent dans les mondes souterrains et qui viennent la nuit capturer ces gens-là. Donc d'entrée de jeu, la science-fiction sert à montrer que le futur, hélas, peut toujours virer à une pire situation que celle qu'on connaît aujourd'hui, et effectivement, et à mettre en garde, ce que tu utilisais comme expression, c'est une littérature de mise en garde, et ça se cristallise parfaitement dans la dystopie, à mon sens.
Pour Andriessner Magnasson, est-ce que vous rejoignez les opinions de Samantha Bailly et de Johan Elliott, la dystopie?
Ja, og ég sé dystopíana sem eins konar rannsókn á, já, oft þeim hugmyndum sem að ráða eða eru að fæðast.
Oui, pour moi, la dystopie, c'est une forme de... On fait des recherches sur les idées qui sont en train de naître dans le monde.
Þannig oft er að höfundurinn er að framregna einhver fræjapel og sjá í raunni hvert það leiðir.
L'écrivain essaie de deviner, disons, ce que pourraient donner certaines graines qui sont plantées dans le réel et ce qu'elles pourraient devenir, ces graines.
En síðan má ekki vanmeta heldur að það getur haft reynt skemmtigildi að búa til einhver hæðilegt.
Il faut pas non plus oublier quand même que ça a aussi une valeur de distraction, c'est-à-dire que ça sert aussi à distraire les gens, ces conjectures.
Alors, zombie apocalypse, qu'est-ce qui a voir avec le fait d'être qui zombie? Heimsendir, qu'est-ce qui a voir avec le fait d'être qui zombie?
Les romans de zombies, par exemple, ne nous mettent pas forcément en garde contre les zombies.
Et puis alors, je voudrais poser une question à Agnès Marot. Faire peur à la jeunesse, c'est bien raisonnable.
Moi, je vois effectivement les dystopies comme un avertissement, mais pas forcément dans l'idée de faire peur. Plutôt au contraire de leur donner des clés, d'une part pour comprendre ce qui se passe dans leur monde actuel, et pour comprendre ce que le monde pourrait devenir. Et du coup... Les dystopies, notamment en jeunesse, en young adult, je les trouve pas déprimantes. Le monde est très très dur, mais on a toujours des héros ou des héroïnes qui ont envie de se battre, qui ont envie de se lever contre les injustices auxquelles ils font face, contre le monde totalitaire, et qui trouvent chacun, dans chaque histoire, leur moyen de sortir de cette dystopie et de retrouver un monde où la liberté, parce que il est souvent question de liberté, où la liberté est là avant tout. Donc, faire peur, oui, mais c'est faire peur pour aider à aller au-delà de ça et à comprendre tout simplement le monde qui nous entoure et essayer d'éviter que le futur qu'on prédit ne survienne.
Merci. Je peux me permettre à nouveau de rebondir. Je suis tout à fait d'accord et leur montrer qu'il y a un espoir existe toujours, mais que malgré tout... l'histoire a malheureusement tendance à se répéter, y compris, enfin, et surtout dans ses pires aspects. mais que malgré tout, il se lèvera toujours un petit groupe pour essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est un petit peu ça, le sens du message, même si bon, j'adhère peut-être pas forcément au mot message, mais enfin, du moins l'intention qui est mise dans les dystopies écrites à destination des adolescents et de la jeunesse. Certes, on va vous présenter un futur absolument terrifiant, cauchemardesque. Alors, on ne le prédit pas, évidemment, mais on le présente tel quel. Mais c'est effectivement, et là c'est aussi le lecteur qui parle, j'en lis beaucoup de dystopies jeunesse, je trouve également oui des livres stimulants, pleins d'espoir, effectivement, curieusement, paradoxalement. Ouais.
Samantha Bailly, vous avez écrit une trilogie, tout le titre générique de Souvenirs perdus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces trois volumes ?
Alors, Souvenirs perdus, c'est une série de romans jeunesse qui est à la frontière entre science-fiction et la fantasy. Peut-être science-fantasy, je ne sais pas. On va peut-être pas partir dans des catégorisations trop compliquées, mais qui est l'histoire en fait d'une île, autour de laquelle tourne un Léviathan, un géant aquatique. Et donc, sur cette île vit depuis des millénaires une population d'environ 3000 habitants. Et en fait, ils ne peuvent pas sortir de cette île, étant donné que ce géant aquatique en est le gardien ou le geôlier. On ne sait pas tout à fait, mais en tout cas, on ne peut pas partir. Et donc, sur cette île, il y a deux camps. Les personnes qui pensent que ce Léviathan est une forme de divinité, qu'il faut se fier à lui, que si on ne peut pas sortir, on ne peut pas sortir, et qu'il faut vivre pleinement cette vie assez idéale hein, sur cette île où finalement... il y a quelques rituels, mais on ne manque de rien, tout se déroule pour le mieux, la société est bien organisée, et voilà, c'est très beau, c'est paradisiaque. Et à côté de ça, il y a un autre groupe qui se dit, mais ce Léviathan, finalement, d'où il vient, ce n'est qu'une créature, on pourrait le tuer, on pourrait essayer de voir ce qu'il y a au-delà. Et évidemment, l'histoire commence quand une femme est retrouvée sur la plage, sauf que cette femme, personne ne l'a jamais vue. Elle vient de l'extérieur. Tintin. donc c'est un roman qui parle justement de l'utopie dystopie puisque c'est une société qui en apparence a tout d'une société idéale, mais à quel prix ? Et ce prix, bien sûr, Agnès en parlait, c'est souvent la liberté. Jusqu'à quel point accepte-t-on d'être aveugle et d'être infantilisé pour avoir la paix intérieure, du moins celle qu'on croit ? Et qu'est-ce que cela signifie que de voir la vie en face, que d'aller au-delà, que de se questionner, que de voilà, essayer de déchiffrer et de comprendre. Et on suit ces protagonistes-là.
Je posais une question générique là. Mais pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Dans quel but ? Est-ce que c'était, enfin cette série, est-ce que c'était dans un but d'avertissement, de distraction, comme le disait aussi.
Le but de distraction est très justement souligné. C'est vrai que nous, on avait un peu tendance là à être avertissement, alerte, un peu déprimant. Mais je pense que c'est avant tout un questionnement. C'est-à-dire que, bien sûr, on essaye d'offrir certaines réponses dans nos romans quand on les écrit, mais aussi on soulève des questions auxquelles, bah, d'ailleurs, parfois on ne répond pas totalement. On laisse le champ ouvert. Et c'était cette idée, en tout cas, de ces jeunes gens qui décident finalement d'essayer de voir au-delà, de prendre un risque et de comprendre par eux-mêmes. Et c'est ça que je voulais explorer à travers ce monde très, voilà, très, très fantaisie, mais en même temps très organisée. C'est une magie qui est quand même extrêmement rationalisée dans ce roman. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'être adulte ? Qu'est-ce que c'est qu'être maître de sa vie ? Que doit-on parfois accepter dans la société ? Jusqu'où ? À quel prix est le bonheur ? Est-ce que c'est au prix finalement de notre aveuglement ? Voilà, c'est ces questions-là.
Agnès Marot, vos personnages ont-ils le même but que les personnages de Samantha ?
Alors, il y a des choses qui font écho, notamment la question de la liberté et de l'aveuglement, beaucoup, puisque dans IRL, donc, qui est une de mes dystopies, l'héroïne se rend compte qu'elle est en réalité un personnage de jeu vidéo, donc typiquement une Sims, et donc elle n'est pas maîtresse de sa vie, n'est pas maîtresse de ses pensées. Quelqu'un lui ouvre les yeux, elle le fait pas tout seul, parce que c'est pas possible, techniquement. Et à partir de là, elle va redécouvrir son monde, qui est un monde entièrement virtuel, découvrir qu'il y a aussi un autre monde, qui est le monde réel, voir les différences entre les deux, etc. Et donc, il y a cette elle ouvre les yeux et petit à petit, elle découvre toujours d'autres choses derrière ce qu'elle a découvert. Donc il y a énormément, effectivement, la question d'aveuglement. Est-ce que sa vie, c'est vraiment sa vie? Est-ce qu'elle est humaine? En soi, non, mais elle s'est toujours pensée, elle a toujours vécu comme une humaine. Donc ça pose beaucoup de questions sur ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que la liberté de vivre, le libre arbitre, tout simplement. Et j'ai aussi rajouté là-dessus la notion d'observation de réseau, de télé-réalité, dans le sens où elle est observée en permanence, un peu comme dans The Truman Show, sauf que là, c'est son monde entier qui est observé en permanence. Et donc, c'est là que rajoute la notion d'avertissement, dans le sens où je m'amuse à brouiller un petit peu les frontières en me demandant qui observe, qui est observé, qui finalement tire les ficelles. Et est-ce que on est plus libre vraiment que ces personnages de jeux vidéo qu'on s'amuse à torturer en les mettant dans une piscine, en levant l'échelle et en attendant de voir tant combien de temps ils vont mourir?
Oh, Drissner Magnusson, j'ai malheureusement pas lu votre livre. Enfin, vos livres, disons, je vous connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler du livre qui est la principale dystopie que vous avez écrite?
Já, mér langaði til þess að rannsaka svona loforðin í svona tækni byltingunni. Mér langaði til að rannsaka loforðin sem að var verið að gefa okkur með internetið, sítengingar, gagnaöflun og allt þetta og hvernig það myndi spilast út.
Ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était d'explorer un peu toutes ces promesses qu'on nous faisait avec les nouvelles technologies, l'internet, tous les slogans aussi, d'explorer la manière dont ça allait se développer et se transformer, ou transformer le monde.
Mais donc, la rannsaka fyrirtæki sem hefur samfélag þar sem engin svona mörk einhvern veginn heldur.
Et donc, je parle dans le livre d'une entreprise d'une entreprise qui n'a aucune limite éthique, et dès qu'elle découvre une idée, elle la met en pratique, et non seulement elle la met en pratique, mais elle la pousse vraiment jusqu'au bout, jusque dans ses retranchements.
Þannig að slagorðið er, ef að við gerum ekki þetta, gerir ykkur annar það, þannig að við skulum bara gera það.
Et le slogan de l'entreprise en question, c'est si nous ne le faisons pas, d'autres que nous vont le faire, donc on le fait.
Þannig að í þessu samfélagi þá markaðurinn eiginlega ná tökum á nánast öllum sviðum daglegslífs.
Et dans la société que je décris dans ce livre, dans Love Star, le marché, les lois du marché, en fait, prennent possession de tous les domaines de la vie humaine.
Því að allir eru tengdir, allt er mælanlegt, allt er rekjanlegt.
Tout le monde est connecté, tout est mesurable et tout est comptable.
Og rannsaka frelsið runni í slíku samfélagi og síðan
j'avais envie de parler de la liberté, enfin de m'interroger en fait sur la liberté dans ce type de société.
Þannig að öll samskipti, ástin, dauðin, guð, allt er komið í hendurnar á einu fyrirtæki.
Voilà, parce que dans cette société, en fait, tous les échanges sont aux mains de l'entreprise, qu'il s'agisse, et pas seulement les échanges, mais les faits humains, l'amour, l'amitié, mais aussi Dieu et même la mort. Tout ça, c'est merchandisé.
Steve Jobs dystopie.
C'est, voilà, une dystopie à la Steve Jobs.
Oui, j'allais vous demander si c'est vraiment de la science-fiction.
Þegar hún var skrifuð var hún science-fiction en hún fer alltaf nær fiction í bókahillinni.
En fait, quand j'ai écrit ce livre, oui, on me disait que c'était de la science-fiction et puis depuis, ce livre-là se rapproche de plus en plus de simplement la fiction de notre société actuelle. Ah. Yeah. Ou d'une parodie du présent, en fait, tout simplement.
Alors, une question que je pourrais poser aussi à tout le monde, peut-être à Johan Elliott pour commencer. Pourquoi n'écrivez-vous pas des utopies? Pourquoi écrivez-vous des dystopies?
Alors, c'est vrai qu'il existe une réponse un petit peu toute faite, mais qui est assez vraie. Qu'est-ce qu'on aurait à raconter dans une utopie? Enfin, si le monde est parfait, si tout va bien, si personne ne souffre, si personne n'a de problème, si tout le monde mange à sa faim, si, enfin bref, au fond de nous, tout le monde souhaite, évidemment, qu'est-ce qu'on s'embêterait, pour le dire poliment, quand même? Qu'est-ce que le lecteur s'embêterait, surtout? Il ne se passerait rien.
Pourtant, au XVIIIe siècle, il faisait des utopies, quand même.
Alors oui, mais il faut peut-être voir d'où ils écrivaient et pourquoi, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, etc. Oui, mais il faut pas oublier la part. Ma camarade a rappelé la part très importante, enfin de distraction, qui est quand même aussi à la base de la volonté d'écriture de ces textes. Voilà. Donc on n'est plus dans l'optique alors des utopies qui ont été écrites dans des buts philosophiques et politiques. Effectivement, il y a quelques siècles, enfin, du moins, pas pour ce qui me concerne, et je reste vraiment dans l'optique de raconter une histoire, de distraire, alors avec toute la notion de mise en garde, de petits messages qu'on évoquait également, mais à titre personnel, moi, j'aurais aucun intérêt à développer une histoire dans le seul but de présenter un monde idéal, ou ce qui serait mon monde idéal, d'ailleurs, le mien, c'est pas forcément le vôtre, etc., ouais. Non, je préfère effectivement toujours me dire, surtout quand j'écris, enfin, ces dystopies, en plus, je les écris uniquement pour la jeunesse. Quand j'écris pour adultes, c'est vrai que j'en fais rarement des dystopies. Parce que j'essaye aussi de m'adresser à un petit peu à l'adolescent que j'étais, et je pense que tous les adolescents, à un moment donné, enfin, il vient un petit peu de la question, mais tous les adolescents, à un moment donné, on a l'impression de se heurter un peu à des murs parfois, de pas trop voir ce que l'avenir va nous réserver. Et moi, j'ai envie qu'ils puissent se dire, mais en lisant n'importe laquelle des dystopies, dire regardez, même d'autres adolescents dans un monde vraiment encore bien pire que celui dans lequel vous vivez, alors eux se heurtent à des murs vraiment concrets, réels, ils s'en sortent quand même quelque part. Voilà, c'est un petit peu voilà pour les raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce genre-là.
Ce que je peux ajouter sur le sujet, c'est que donc en 2013, j'ai été contactée par ce qui s'appelle le comité Colbert, qui rassemble plusieurs maisons du luxe. Ils nous ont proposé à 6 auteurs de science-fiction de travailler sur la notion d'utopie. Alors c'était très très intéressant parce que déjà, luxe et science-fiction, on est aux antipodes sociologiques, n'est-ce pas? Donc ça pose plein de questions, mais en fait, c'était absolument passionnant parce que la question n'était pas de dépeindre un monde complètement idéal dans le luxe, mais de s'interroger sur qu'est-ce que serait l'avenir et qu'est-ce que le luxe, dans le sens aussi des nouvelles technologies, etc., pourrait jouer comme rôle là-dedans. Et quand on s'est réunis autour de la table, en essayant d'imaginer ce futur, on a tous commencé par construire un monde commun dans lequel s'était passé quelque chose de très grave, donc une pandémie qui nous a servi de base, parce que même si on a voulu construire cette forme d'utopie, on s'est dit... En effet, elle doit toujours, comment dire, puiser sa force sur une forme de traumatisme, d'une erreur qu'on a commise et qui permet de rectifier le tir. Et même dans l'utopie qu'on a construite chacun dans nos nouvelles, on n'a pas pu s'empêcher de glisser un certain nombre de petits avertissements. Mais ce qui était intéressant, c'était le postulat de base de ne pas partir de qu'est-ce qui va aller mal, de qu'est-ce qui pourrait aller bien. Et c'était vraiment intéressant comme question. Et moi, ce que j'avais inventé comme concept, c'était les mots tissus. Donc, en fait, les vêtements avec les nouvelles technologies et notamment la capacité qu'on pourrait avoir à explorer le cerveau, à en faire une cartographie beaucoup plus fine, notamment sur les émotions. Et donc, des vêtements qui pourraient restituer les émotions en temps réel. Avec tout ce que ça implique de dérangeant, c'est-à-dire quelles sont nos frontières avec l'intimité. Si on pouvait, alors c'est sous forme de couleurs et de motifs, donc les couleurs pour une émotion fugace et les motifs pour une humeur qui est plus persistante. Comment on pourrait mieux vivre ensemble? Eh ben peut-être en se comprenant mieux, en ayant un peu accès à l'autre. Mais dans la nouvelle elle-même utopique, la créatrice de mode et neuroscientifique revient presque en arrière sur sa création, de se dire mais quelles sont les limites de l'intime? Et c'est cette question de l'intimité sur l'utopie, et je trouve très intéressante parce que finalement cette notion d'intimité, elle a évolué dans le temps. Par exemple, vous prenez À l'époque de Louis XIV, la santé n'était pas un sujet tabou, par exemple, c'est-à-dire qu'on pouvait faire le compte-rendu voilà, de comment vous étiez, de tout ça, alors que maintenant, le secret médical, on est dans quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Donc on voit ça qui évolue, et j'avais trouvé ça très intéressant de se poser la question en sens inverse aussi, qu'est-ce qui pourrait aller bien.
C'est très intéressant cette remarque. Qu'est-ce qui pourrait aller bien? Est-ce que vous avez pensé à écrire un livre avec qu'est-ce qui pourrait aller bien?
Alors je l'ai fait en fait. j'ai écrit d'abord une dystopie donc qui s'appelle De l'autre côté du mur. Et un an après sa sortie, donc j'avais déjà eu beaucoup de retours, j'avais eu le temps d'y réfléchir, etc. Je me suis rendu compte que en fait on parlait très peu justement de la mise en place des dystopies. Et j'avais envie d'écrire du coup une préquelle qui se passe plus d'un siècle avant, je crois, et qui raconte comment cette société-là a été mise en place. Et donc j'en parle maintenant parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé de construire une utopie. Le roman s'appelle « Note pour un monde meilleur » et qui a échoué simplement parce que je crois qu'on le disait au début, l'utopie des uns n'est pas forcément celle des autres. Et même quand on a aussi de très bonnes idées, parfois, ben, on n'arrive pas à les mettre en place, ou d'autres s'en emparent et en font autre chose. Et là, on peut dire qu'il s'est bien planté dans les grandes largeurs. Et donc, j'ai presque essayé d'écrire une utopie, mais pour moi, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on n'aura pas tous la même notion. On peut pas être tous exactement d'accord sur la façon dont le monde doit fonctionner, quelle liberté on garde, quelle notion d'intimité, tu disais tout à l'heure. Et donc, fatalement, ce qui est une utopie pour quelqu'un d'autre va se transformer en dystopie pour quelqu'un d'autre.
Við getum ímyndað okkur hvað Biblían væri löng ef að Adam og Eva hefðu bara verið í paradís.
On peut s'imaginer la longueur que ferait la Bible si Adam et Eve étaient restés au paradis. Voilà, quelques pages. Il ne serait rien passé. Ouais, parfois l'auteur, il est tout simple. Enfin, l'auteur est dans cette position simplement de, il faut qu'il se passe quelque chose. Et on était bien obligé d'envoyer le serpent.
Alors, moi, je vais poser une question différente en ce sens que est-ce que une dystopie, elle présente un monde pire que celui dans lequel nous vivons, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'une dystopie peut avoir une fin heureuse? Ouais. Est-ce que vous avez des exemples dans votre production de dystopies qui ont des fins heureuses?
Alors, j'essaie toujours d'avoir une fin équilibrée, c'est-à-dire quand même les personnages s'en sortent à la fin, je ne tue pas tout le monde. Non, mais il y a toujours une lueur d'espoir, oui, toujours. Alors, vu le monde de départ, vu quand même les cauchemars de départ, effectivement, tout peut pas non plus s'arranger. Et puis d'ailleurs, il faut garder une certaine crédibilité, comme dans la vraie vie. Voilà, on ne vit pas dans un monde parfait, c'est une vue de l'esprit, un monde parfait, ça n'existera jamais. En revanche, on peut avoir des mondes moins pires, voilà. Donc la fin d'une dystopie, une fois que les héros ont fait leur travail de héros, ont rétabli un tant soit peu la situation de départ, ils ne peuvent pas refaire le monde pour qu'il redevienne, pour qu'il revienne, pour qu'il soit idéal. Mais ils peuvent quand même, voilà, se dire finalement, malgré là d'où on part, on peut quand même vivre dans ce monde-là sous telle ou telle condition. Donc voilà, c'est un équilibre. De toute façon, voilà, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que le principe même d'utopie, oui, ça reste, c'est une pure vue de l'esprit. Enfin, on ne va pas paraître trop pessimiste. Enfin, on ne réalisera jamais une utopie. D'ailleurs, les quelques exemples historiques nous montrent bien ce que ça devient les utopies. Enfin, je ne vais pas faire l'histoire du communisme et autres. Mais enfin, voilà, on sait vers quoi ça arrive. Et puis, pour rappeler, revenir sur le du serpent, etc., et de la relativité des utopies, du point de vue d'Adolf Hitler, le Troisième Reich, c'est une utopie magnifique.
Oui, oui, je pense qu'une utopie peut avoir une fin heureuse. Alors, en effet, tout dépend de là où on place le curseur. Mais d'ailleurs, en général, la dystopie on part sur un monde qui est difficile et on suit en effet le cheminement des protagonistes qui vont renverser un système et qui vont donner cette petite brèche de lumière là-dedans qui fait que on espère quand même que ça va aller un petit peu mieux quand même. Mais c'est très intéressant parce que c'est aussi la notion de fin qui est soulevée. Et alors chacun a son point de vue, mais dans mon écriture, mes fins en général sont très nuancées. Parfois, c'est certains de mes lecteurs me le reprochent, mais de manière gentille, mais dans le sens ah oui, tu nous as pas pleinement satisfait de la happy end, comme on dit, parce que bah oui, en effet, tout dépend de comment on se positionne dans l'écriture de fiction. Moi, ma vision de ça, bien sûr, il y a de l'évasion, il y a de la distraction, mais j'aime bien cette idée de réalisme et de restitution de la vie. Dans ce cas-là, en effet, de nuancé, dans ce cas-là, de complexe, dans ce cas-là, de nuance de gris. Et oui, c'est ça, quoi. Et on peut pas, voilà, il n'y a pas la fin pleine et entière, en général, parfaitement heureuse, mais il y a cette espèce de petite victoire, quoi, qu'on a accomplie. Et c'est déjà, en général, beaucoup.
Je suis assez d'accord sur les fins nuancées. Personnellement, une dystopie avec une vraie happy end à la fin où le monde va mieux et tout le monde s'en sort, j'y crois pas. Je serais même très frustrée parce que c'est pas possible, enfin pas après tout ce par quoi ils sont passés. En revanche, je pense qu'il y a plusieurs possibilités en fait pour avoir une fin heureuse. Il peut y avoir un monde où ce qui n'allait pas dans la société a été abrogé, mais le héros s'en sort mal ou pas du tout d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a un héros qui se sacrifie pour on a un héros qui se sacrifie pour sa société. En soi, c'est une fin heureuse parce qu'il a réussi sa quête, il a fait ce qu'il voulait, même si lui, a dû se sacrifier pour ça. Ou bien, il peut rester des grosses failles dans la société, mais un héros qui a trouvé sa place, qui a fait son chemin, qui a éventuellement quand même accompli des petites choses, parce qu'il faut bien que le roman avance tout de même, mais que il a sa fin heureuse à lui. Je me situe plutôt, je pense, dans l'idée de la fin heureuse pour le personnage qui me semble plus facile et plus crédible à mettre en place. Parce que un personnage ou un petit groupe de personnages, j'ai rarement des gros groupes de révolution, c'est des petits groupes. Du coup, ils peuvent pas changer le monde à eux tout seuls. Ils vont changer la première pierre. Et comme Samantha, je ne raconte pas la suite. parce que je laisse le lecteur s'imaginer lui-même ce que va être la deuxième, la troisième, la quatrième pierre. Je peux pas en fait donner les clés. Si j'avais la solution pour que le monde soit meilleur, j'essaierais de la faire. mais pour moi, ça veut pas dire que la fin est malheureuse. Il y a quand même une avancée à la fois dans la société pour le personnage. Donc il y a cette satisfaction là avec des failles, avec des pertes, avec encore des tas de choses à faire, mais au moins on a commencé.
Ben, oui. Alors, même question, est-ce qu'une dystopie peut avoir une fin optimiste?
Það er áhugaverð þessi umræða dystopíur og af því nú hafa dystopíur verið mjög ríkjandi í 10-15 ár.
La discussion sur les dystopies, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que les dystopies, elles sont devenues très très nombreuses depuis une dizaine, quinzaine d'années.
Þannig að sumir hafa velt fyrir sér hvort að þetta hafi áhrif á undir meðvitund okkar.
Et certains se sont même demandé si elles n'influencent pas notre subconscient.
Við séum bara forritu til að finnast framtíðin vera svört.
Et si on n'est pas tout simplement programmé pour imaginer le futur en noir.
Vísindin varðandi global warming eru líka búin að mála upp frekar svarta mynd af framtíðinni.
Tous les scientifiques qui parlent de réchauffement climatique sont également programmés pour voir l'avenir en noir.
Það má alveg hugsa einmitt hvort að það sé ábyrgð rithöfunda að finna eitthvað ljós þarna fram.
Et on peut effectivement se demander si la responsabilité des écrivains c'est pas justement d'essayer de trouver une espèce de lumière quelque part quand même au bout quoi.
Og það má kannski líka spyrja sig hvort það sé of auðvelt fyrir höfund, af því það er mjög erfitt að skrifa utópíu.
Et du coup, on peut se demander si le travail de l'auteur, c'est pas tout simplement très facile, quoi. Il suffit de trouver une lumière. Or, c'est très difficile d'écrire une utopie. Sans, ou une dystopie, sans que ça devienne simplement du très banal social réalisme. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu le film Arrival. J'attendais toujours qu'arrive la guerre ou que l'extraterrestre mange, dévore le personnage principal. Ou bien j'attendais qu'une guerre mondiale éclate et que cette guerre mondiale détruise tout espoir en tuant l'extraterrestre. Mais bon, je vais tout spoiler, je vais être le spoiler de la mort, ça ne se produit pas dans le film. Et en fait, j'ai été soulagé en découvrant que la fin, finalement, est effectivement positive. Et cette fin, elle ouvrait un champ, elle ouvrait toute une fantaisie ou tout un imaginaire pour un meilleur monde. Et elle renouvelait la foi en l'humanité. Enfin, le film, Il. Excusez, c'est Elle en islandais, c'est Il en français. Malgré tout, ce film-là n'était pas du tout banal. Voilà. On me dit qu'en français, le film, c'est Premier Contact. Moi, j'ai traduit évidemment par Arrival, mais bon, j'ai pas vu le film non plus.
Vous avez parlé de la responsabilité de l'écrivain. Et moi, j'avais une question à poser sur quel est le rôle de l'écrivain qui écrit une dystopie. Alors, je sais pas si on peut parler de responsabilité, vraiment. Oui, non. Est-ce qu'il s'agit d'une responsabilité ou d'un rôle? Est-ce qu'il s'agit d'un... Enfin,
Já, það var eiginlega meira hvaða skilaboð gefum við út í samfélagið og hvert er hlutverk okkar í samfélaginu og já, hvert er hlutverk okkar í samfélaginu og af því að við höfum séð að bókmenntir að miklu leiti hafa oft ákveðið forspárgildi, það er greina og setja stundum tónin fyrir hvernig við skynjum heiminn.
En fait, ça dépend de la manière dont on envisage notre rôle en tant qu'écrivain. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que très souvent, il s'est révélé que la littérature a eu, on pourrait dire, presque une dimension prophétique dans la société.
Il y a un verkfræðing qui m'a skammé et qui a dit qu'il avait lu Tom Swift quand il était jeune.
Et j'ai un jour rencontré un ingénieur qui m'a... disputé, engueulé. Il avait lu Tom Swift quand il était jeune. Et sa génération, la génération de cet ingénieur, en fait, le rêve qu'elle caressait, cette génération, c'était de pouvoir aller sur la Lune. Et donc, ils faisaient en conséquence pour mettre en pratique leur rêve. Or aujourd'hui, tous les livres parlent de découvertes de découvertes absolument affreuses qui détruisent systématiquement le monde. Il m'a dit que voilà, à écrire des choses comme ça qui détruisent le monde, etc. ça n'aurait pour effet que d'encourager les gens à ne rien faire, enfin à l'inactivité et au cynisme. Et que ça laisserait la place, ça laisserait un vide dans le futur, que ce vide pourrait être pris, colonisé par des personnes mauvaises. Ça laisserait la place à des gens mauvais. Mais c'est pas mon manifeste, ça. C'est simplement une réflexion sur, justement, la responsabilité de l'auteur.
Merci. Alors, pour vous, quelle est la responsabilité de l'auteur quand vous écrivez une dystopie?
C'est très intéressant parce que c'est, en effet, comment on envisage notre rôle. Et c'est des questionnements que je me pose beaucoup en ce moment parce que j'écris des livres, c'est mon métier, et je ne peux pas l'imaginer de façon décorrélée à un engagement plus global dans la société. Mais je ne dis pas que c'est quelque chose d'obligatoire. C'est en tout cas ma vision. Et à l'heure actuelle, en plus d'être romancière, je suis administratrice à la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Donc c'est un investissement qui consiste à défendre les auteurs, les droits des auteurs et à espérer quelque chose de meilleur pour les auteurs. Et il y a pas mal d'utopie là-dedans aussi, ou en tout cas de cet élan d'optimisme. Et dans mon écriture, donc là je ne parle pas de la science-fiction et de la fantasy, mais par exemple j'ai écrit Nos âmes jumelles, qui est l'histoire de deux jeunes filles qui rêvent d'être illustratrices et écrivains professionnels, et elles y arrivent. Et c'est ça, on sait d'avance qu'elles vont y arriver et on suit leur chemin. Et c'est un chemin qui est plein de lucidité, qui a de la douleur, mais au final, c'est des personnes qui y arrivent envers et contre tout, et qui réalisent leur rêve pas dans la naïveté de se dire « j'ai réalisé mon rêve, c'est formidable », mais qui accomplissent quelque chose avec un parcours qui est compliqué, mais finalement, elles y arrivent. Et moi-même, dans ma vision de tout ça, ben voilà, quand j'ai dit, moi, dès que j'avais 13 ans, j'ai dit « je serai écrivain », tout le monde m'a dit « ce n'est pas un métier, ce n'est pas possible ». Aujourd'hui, j'ai 28 ans, j'ai publié 17 livres, j'en vis, ça n'est pas simple, mais je me suis vraiment profondément accrochée à cette note d'optimisme que j'avais envie de mettre dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Et sur le rôle de l'auteur, je pense que, en effet, il y a presque un rôle quasi social qui peut, en tout cas, en fonction de l'investissement de chacun et de son envie d'aller sur ce terrain. Où moi, j'estime que quand je vais dans les classes, quand je vais faire des rencontres, etc., j'essaye de passer quelque chose, je dis pas que c'est le bon message ou quoi, mais de se poser des questions et d'agir pas seulement à travers le livre, mais presque de façon incarnée, en fait, bien vivante, comme sur ma chaîne YouTube ou voilà, sur les réseaux sociaux.
Oui, et puis je vais ajouter, je pense qu'il y a une forme de responsabilité malgré soi, surtout quand on s'adresse aux jeunes lecteurs. C'est quelque chose qui m'échappait quand j'ai commencé ce métier aussi. Je me revendiquais souvent comme un simple raconteur d'histoire, mais j'ai fini au bout des années à me rendre compte que non. Tout simplement en rencontrant, comme tu le fais, enfin beaucoup de jeunes lecteurs, et en me rendant compte que parfois nos livres ont un impact insoupçonné sur la vie, ou du moins à un moment donné de la vie de certains jeunes lecteurs, qui vont y voir, qui vont y trouver des choses, des messages, peu importe comment on appelle ça, qu'on n'aura pas mis forcément de façon consciente, mais qui sont quand même bel et bien là, à ce moment-là, qui vont rencontrer à ce moment-là de la vie du jeune lecteur, de la jeune lectrice, quelque chose, ça va résonner. Et donc, il y a effectivement, malgré soi, parfois, une responsabilité dans ce qu'on leur présente du monde, dans ce qu'on leur apporte du haut de notre expérience, mon grand âge, je suis un peu plus âgé, etc. Enfin, voilà. Donc oui, maintenant, je prends un petit peu plus au sérieux, je dirais, cette notion de responsabilité.
Ouais.
Oui, ça me pose beaucoup de questions aussi, parce qu'au-delà d'une responsabilité, pour moi, c'est un besoin. Je rebondis un peu sur ce que disait Samantha. Je me sens souvent impuissante devant l'actualité. Je vois les choses qui ne vont pas, mais je me dis, comme beaucoup de gens, je pense, mais qu'est-ce que je peux y faire, moi, toute seule? J'ai pas les armes, j'ai pas le courage. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que si j'avais des armes, et c'était mes mots, justement, c'était mes romans, et que ces romans-là peuvent me permettre de changer les choses à une toute petite échelle, hein, mais peut-être pour 3 lecteurs, peut-être pour 10, peut-être pour beaucoup plus. Voilà, c'est ma façon à moi de changer les choses, de me battre contre ce qui ne me plaît pas. Par exemple, je parlais d'IRL tout à l'heure. Je l'ai écrit au moment du scandale Snowden sur donc l'observation de masse à travers nos écrans, nos téléphones, à travers tout ce qui est connecté, qui à l'époque était fait illégalement par le gouvernement, qui depuis a été tout à fait légalisé. Merci les récentes évolutions de ces dernières années. Et donc pendant, je l'ai écrit sur plusieurs années, et plus je l'écrivais et plus les lois passaient et plus ils disaient c'est bon, le gouvernement a actuellement le droit d'aller regarder sans que vous soyez au courant dans votre ordinateur, ils peuvent allumer votre webcam, pardon, ils peuvent regarder sur aussi la webcam de votre téléphone parce qu'on oublie celle-là souvent. J'ai eu plusieurs réactions d'ailleurs de lectrices qui me disaient oh là là, ton roman il rend parano. Mais ça va, je suis dans une salle où j'ai pas de caméra. Je dis t'es sûre ? Elle me dit bah oui. Bah tu m'écris avec quoi ? Bah avec mon téléphone. Voilà. Donc mes romans ils sont importants pour moi parce qu'ils me permettent de dire les choses que je ressens. Et effectivement c'est peut-être une forme de responsabilité, mais pour moi c'est vraiment avant tout un besoin. Ouais.
Donc, les récits dystopiques ont une fonction d'avertissement qui essaye de montrer l'évolution du monde ou ce qui pourrait nous arriver. Il y a une responsabilité de l'auteur, visiblement aussi par rapport à ces récits qui touchent les lecteurs. Et maintenant, j'aimerais demander au public si le public a des questions à poser à nos auteurs en rapport avec le sujet ou un autre sujet. Y a-t-il des questions de la salle? Pas de questions? Oui, Georges? Donc là, en fait, tu poses la question sur la création d'une utopie. Ah, d'accord. Ouais. Tout le monde est d'accord. Il est d'accord.
Já, sko, ég eins og sé, það er áhugaverð áskorun að prófa að skrifa svoleiðis bók.
Ouais, ça serait un défi assez intéressant d'essayer d'écrire un livre comme ça, effectivement.
En almennt held ég að maður myndi enda í non-fiction.
Mais je pense que du coup, on finirait dans la non-fiction.
Bara eins og kommunista ávarpi eða aðrar svona bækur.
Comme par exemple, on risquerait de se retrouver, si on veut écrire un livre sur comment on met en place une utopie, on finirait dans l'essai, comme par exemple le manifeste du Parti communiste.
Ok, ouais. C'est probablement vrai. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Il y a un micro maintenant.
Oui, notamment pour les auteurs jeunesse. Comment armez-vous spécifiquement vos jeunes héros pour effectivement survivre et qu'ils puissent avoir cet itinéraire dans ce monde dystopique? Quelle est la particularité de l'itinéraire du héros dans un monde dystopique?
Pour moi, alors déjà, je m'attache beaucoup à décrire des héros qui pourraient être nous. Donc comment je les arme? Pas très bien. Ils savent pas se battre, parce qu'il y a quand même assez peu de monde qui sait se battre dans la réalité. Ils sont pas plus intelligents que les autres. Simplement, leurs armes, ça va être leur volonté, le fait de pas se laisser abattre quand ils tombent, de se relever, chose qu'on peut tous faire, mais qu'on ne fait pas forcément tous. Et puis, leur entourage. Pas forcément parce qu'ils ont un ami de super fort qui va tout faire à leur place, plus dans le sens où, ben, moi je suis convaincue qu'on a chacun quelque chose qui nous permet d'avancer, et que si on trouve les bonnes personnes, qu'on arrive à bien s'entendre sur la façon de faire et qu'on s'allie les uns les autres, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait au départ. Donc chacun a sa petite particularité. C'est pas du tout des super-héros, c'est juste c'est des lycéens, parce qu'on est dans la jeunesse, ou quand il n'y a pas de lycée, ils ont le même âge et ils sont très très naïfs. Ils se découvrent ensemble, et ensemble ils découvrent ce qu'ils sont capables de faire, tout comme je disais tout à l'heure que moi j'ai découvert que je pouvais peut-être changer les choses en écrivant. Bah pareil, voilà. Donc, je les arme avec leur propre quête d'eux-mêmes, leur révélation personnelle. Et voilà, mais en soi, j'ai souvent des scènes où je me retrouve embêtée, d'ailleurs, parce qu'ils se retrouvent face à des méchants qui, eux, savent se battre, parfois. Je me suis toujours dit, notamment dans IRL, où il y a une révolution, à un moment, elle se retrouve embarquée dans un combat, et elle est censée se défendre. Et au fur et à mesure que j'écrivais le roman, je me disais, il faudrait quand même qu'à un moment, je lui apprenne à se battre, parce que je me trouvais embêtée. Finalement, je lui ai pas appris à se battre. Elle se prend une raclée et puis elle fait ça autrement après. Voilà.
C'est intéressant comme question parce que écrire pour la jeunesse présuppose, on va dire, voilà, que nos héros, héroïnes sont jeunes. Mais d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire. Parce que là, on touche à la question de l'identification. A-t-on vraiment besoin d'être le double de ce qu'on lit? Personnellement, je ne pense pas. Mais voilà, en général, les éditeurs ont plutôt tendance d'ailleurs à nous demander... ça s'adresse à telle cible, etc. Mais moi, ce que j'adore là-dedans, c'est l'évolution psychologique, en fait. C'est de se dire que la dystopie met en exergue, évidemment, des difficultés, comme tu disais, Agnès, aussi physiques, parce que, voilà, on est dans la lutte, quelque part, on est dans la résistance, ou alors on est, voilà, dans la fuite, enfin... Et c'est de voir à quel point ils vont évoluer très rapidement psychologiquement. Comment ils vont puiser dans leurs ressources et comment ça va les façonner, les modeler et les changer de l'intérieur, parce que je suis pleinement convaincue qu'on prend la couleur de l'endroit où on est, qu'on est tous très influencés par qui on rencontre, par ce qu'on fait, et que du coup, les suivre comme ça dans des événements en effet très forts, très resserrés, et dans une position souvent de survie, ça va mobiliser chez eux un certain nombre de réactions, et ils vont aussi non seulement se découvrir eux-mêmes, mais je pense choisir qui ils veulent être. Et à mon sens, c'est vraiment ce qu'il y a de fascinant dans l'exploration de l'écriture.
Oui, je vais juste ajouter une petite nuance, c'est que moi, dès le départ, mes jeunes héros, je les place déjà dans des mondes tellement difficiles à vivre, sont déjà des survivants malgré eux. Donc, je dirais, ils ont déjà des capacités que nous n'avons pas effectivement, parce que nous, on vit dans le luxe et le confort, quoi qu'on en dise. Voilà, donc, alors ce ne sont pas des super-héros, effectivement, ils se prennent des coups aussi tout au long du livre, effectivement, mais voilà, vu le monde dans lequel ils évoluent, ils savent déjà bien mieux que nous se défendre quand il le faut, je veux pas dire voilà, qu'ils vont remporter tous leurs combats, mais ils ne nous ressemblent pas en ce sens-là.
Je m'aperçois qu'il est 18h02 et qu'il y a une autre table ronde à 18h qui est prévue. Donc, j'imagine que nous allons conclure ici cette table ronde. Je voudrais remercier les auteurs ici présents d'avoir participé à ce débat. Et je vous invite tous, évidemment, à les retrouver sous la bulle du livre et à acquérir les ouvrages et à les lire avec grand plaisir si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de votre attention.